Puis là, peut-être les maris vont dire ce matin, pas vrai, Richard, pas un deuxième message sur le rôle des hommes. Hein, peut-être que tu dis, hey, t'exagères. Tu reviens encore là-dessus. Tu m'as dit d'aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église, de se donner pour elle, d'attendre le temps de Dieu pour se donner, de la connaître, de l'amener à suivre la parole de Dieu par ta grâce. Puis là, tu veux me parler encore. Bien, lorsqu'on lit Éphésiens 5, c'est vraiment intéressant. J'ai calculé le nombre de mots quand il exhorte les hommes, puis le nombre de mots quand il exhorte les femmes. En grec, fait que ça ne va pas se tromper, là. OK? Comment? Éphésiens 5, 22 à 33. On va le relire tantôt. On l'a déjà lu il y a quelques semaines. 46 mots grecs pour la femme. 39 au début du passage, puis il rajoute 8 mots à la fin pour son rôle. Mais dans la description du rôle de la femme, il y a 4 mots qui s'adressent, qui sont en train de louer le Seigneur. Donc, c'est pas sur le rôle de la femme. Donc, on en vient à 43 mots. 43 mots pour décrire le rôle de la femme. Messieurs, combien de mots quand il décrit le rôle de l'homme? 80? 100, attends un peu là, 104 mots. Donc, ça fait le pourcentage pour la femme, 30%, et pour l'homme, 70%. Fait que si tu as quelque chose à dire ce matin, tu dis là, mais quand tu arriveras au ciel, tu en parleras à Paul. Tu en parleras à l'apôtre Paul. Pourquoi? Je comprends pas, Paul, tu étais célibataire. Mais Paul avait saisi quelque chose. C'est que si on veut que nos couples, nos familles fonctionnent, ça commence avec moi. Oui, la femme a un rôle important, très important. Mais je sais qu'on doit s'adresser aux hommes. Parce qu'il y a une clé, là, dans le mariage. Il y a une clé. Alors, on va relire le passage dans... On tournait dans Éphésiens 5, 25 à 31. Je relis le passage qui traite au dernier message, mais aussi pour ce matin, parce que c'est une continuité. Éphésiens 5, 25 à 31. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, littéralement le bain d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et là, c'est pour le message d'aujourd'hui. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit. Il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, on est encore dans le thème « Comment le mari va aimer sa femme? » On a vu la dernière fois comme Christ a aimé l'Église. Et ce matin, on va voir qu'il doit l'aimer. Et là, il y a tout un concept théologique très important. Il doit l'aimer comme son propre corps. Paul élargit le thème. Comme Christ a aimé l'Église, mais aussi, il doit aimer sa femme comme son propre corps. Et ne cherchez pas d'autres points au message. C'est celui-là. Aimer sa femme comme t'aimes ton propre corps. OK. Pour comprendre ça, pour comprendre l'effet puissant de ce message-là, moi, quand j'ai saisi ça, ça a changé quelque chose dans mon approche. Pas parfait, loin de là. Mais pourquoi il dit d'aimer sa femme comme son propre corps? Mais regardons au verset 23. Il est dit, « Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Le mot chef ici, là, c'est le même mot en grec, tête. C'est le mot régulier pour tête. Des fois, il veut dire chef, mais évidemment, la tête du corps dirige le corps. Okay? Et donc, des fois, ce mot tête, dans certains contextes, veut dire chef. Parce que dans l'image de la tête et du corps, c'est la tête qui dirige le corps. Et donc, dans d'autres contextes, il veut simplement dire chef. C'est pour ça ici, c'est traduit chef. Mais on pourrait facilement traduire Christ est la tête du corps, comme le mari est la tête de la femme. Et le chef de la femme. Il y a une direction de l'homme dans le mariage. Donc, comment ça que Christ est la tête, puis l'Église est le corps? À la conversion, quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, quand tu as réalisé à quel point tu ne pouvais pas entrer dans la présence de Dieu sans la croix, je lisais dernièrement le livre d'Exode, ça m'a touché. Avant d'entrer dans la présence de Dieu, ouf! Tu as tous les commandements que Dieu a donnés. Et l'Israélite devait dire, qui peut entrer dans sa présence? Dieu voulait communiquer que sans la croix, sans le sacrifice de la croix, personne d'entre nous ne peut entrer dans la présence de Dieu. C'est de la folie. Tous ceux qui sont entrés dans la présence de Dieu, d'un Dieu infiniment puissant, comme plus grand que l'univers, sont tombés à terre. Ils étaient saisis d'effroi devant la grandeur de Dieu. Et donc, quand tu as accepté le Seigneur, puis que tu as su que maintenant tu pouvais entrer dans la présence de Dieu, la Bible m'a dit qu'il s'est passé quelque chose. Ton corps, était greffé, est devenu un membre du corps de Christ. Tu as été greffé, Christ est la tête, l'Église est son corps, et toi, en tant que chrétien né de nouveau, racheté, tu es membre du corps. Tu es une main, tu es un pied, un genou, un œil, je ne sais pas, mais tu es greffé au corps. Tu es uni au corps. Donc, on comprend l'image de Christ et de l'Église, la tête qui aime son corps. Christ est la tête, l'Église est son corps. Donc, c'est lui qui dirige et c'est lui qui aime. Et Paul va pousser l'image à fond. On comprend que c'est Christ qui est la tête et que l'Église est le corps, mais comment faire le parallèle avec le mari et sa femme? Le mari est bien la tête de la femme, d'après le texte. Mais comment comprendre que le corps de la femme, c'est le sien? Vous me suivez? Pas sûr. On compare, Christ c'est la tête, l'Église c'est son corps, il aime son corps. Le texte dit que le mari, c'est la tête du foyer, le chef. Pour avoir des problèmes là-dessus, on pourrait passer tout un message sur qu'est-ce que ça signifie. Mais le texte dit ici qu'il doit aimer la femme comme son propre corps. OK, ça marche avec Christ parce qu'il est la tête du corps, mais quel est le lien avec son propre corps puis la tête? On va voir, on va essayer de comprendre ça. C'est très important. Quand on comprend ça, là, ça a un impact dans notre couple en tant que mari. Et pour comprendre, il faut tourner à Genèse. Alors, c'est tiré de Genèse, on va voir. Alors, vous l'avez à l'écran. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, voici ce qu'il a dit. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. » Parce qu'elle avait été tirée d'Adam. Donc, elle est os de ses os, chair de sa chair. On l'appellera femme, excusez, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et là, c'est Dieu qui dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. OK? Il y a deux choses, deux éléments dans ce texte. Il y a premièrement les paroles de l'alliance. Ensuite, il y a aussi l'union physique du couple. Laisse-moi expliquer. L'alliance, premièrement. L'alliance est décrite en blanc. L'action, dans le texte, si vous regardez, l'action que le mari prend. Premièrement, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de quitter son foyer, père et mère. Il décide de quitter son foyer, père et mère. Et il décide, deuxièmement, de s'attacher à sa femme. Ça, c'est l'alliance. Il décide d'abandonner, tout le monde le sait, tous les voisins le savent, il décide d'abandonner le foyer familial et il s'en va fonder un nouveau foyer et il s'attache à sa femme. Ici, ça décrit le rôle de l'homme particulièrement, mais c'est une alliance réciproque. L'épouse fait la même chose avec sa famille, mais ici, le texte souligne le rôle du mari qui laisse, qui quitte et qui s'attache. Ça, c'est l'alliance. Pourquoi je dis l'alliance? Parce que dans Malachie chapitre 2, il y a un terme qui décrit le mariage dans la Bible. C'est le terme alliance, un contrat, une décision mutuelle, un arrangement mutuel. Et il y a un texte qui est vraiment intéressant. Les Juifs, dans Malachie, on ne le regardera pas à l'écran, dans Malachie 2, 13 et 14, les Juifs se plaignent. « Seigneur, tu n'entends pas nos prières. On te prie, puis il n'y a rien qui se passe. » Et Dieu dit, Dieu leur répond, et vous dites, pourquoi? Pourquoi, Seigneur, tu ne réponds pas? Et là, Dieu leur dit quelque chose d'assez intense. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Cette expression-là revient 4 fois dans la Bible. La femme de ta jeunesse. Moi, je l'aime beaucoup, cette expression-là. La femme de ta jeunesse. Ensuite, il dit, à laquelle je ne te réponds pas parce que j'ai été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. Tu l'as trahi. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Elle est ta compagne, ton aide, la femme de ton alliance. La femme de ta jeunesse, c'est la femme de ton alliance. C'est celle avec laquelle tu as contracté alliance. OK? Voyez-vous, le mot alliance veut dire une union contractée par engagement mutuel. Les synonymes contrat, pacte. On fait un pacte ensemble. D'être fidèle, de s'aimer l'un et l'autre jusqu'à la mort ou jusqu'à ce que Jésus revienne. Quand on célèbre des mariages, est-ce que tu t'engages d'être fidèle jusqu'à la mort? Et là, il y a un engagement qui est fait. Évidemment, quand l'adultère vient affecter cette alliance-là, le Nouveau Testament alloue, dans certains cas, la possibilité d'un divorce. Mais à part ça, Dieu dit non. L'alliance, c'est ce qui unit l'homme et la femme, dans leurs pensées, leurs actions, leur cœur. C'est l'union du mariage, l'alliance. Dans Genèse, il quitte sa mère, son père et sa mère, il s'attache à sa femme. Ça, c'est l'alliance, l'engagement. C'est solennel. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, lorsque Joseph, il apprend que sa femme est enceinte, qu'est-ce qu'il décide de faire? La répudier en secret. De la divorcer en secret. Pourtant, ils étaient seulement fiancés. Il n'y avait eu aucun rapport sexuel entre eux. Mais d'après la loi d'Israël, ils étaient considérés comme mari et femme, et la seule façon de briser cette alliance-là, c'était par le divorce. Joseph avait fait alliance avec Marie. Parce qu'il pensait qu'il y avait eu adultère, il se proposait de la divorcer. Donc, l'alliance, c'est très important. Donc, la première partie du passage, quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, ça, c'est l'alliance. Et des fois, on mélange ça avec la deuxième partie du passage. La deuxième partie du passage de Genèse, ils deviendront une seule chair. Ils s'unissent par alliance et ils deviennent une seule chair. Ils ont une relation sexuelle puis ils deviennent une chair, un corps, ensemble. Peut-être que vous me voyez venir avec le texte d'Éphésiens, mais il y a un lien. Ils deviennent un corps ensemble dans la relation sexuelle. Dieu les a unis et ils deviennent une chair. Le fait qu'ils deviennent un seul corps, dans leur amour qu'ils ont l'un pour l'autre, c'est le reflet de leur union, de l'alliance, de leur union spirituelle, mentale et émotionnelle. Ils ont fait alliance. Ils sont engagés devant Dieu. Quand un couple, on les marie, et là, ils prononcent leurs vœux. On les déclare mari et femme. Ils n'ont eu aucune relation sexuelle par la grâce de Dieu, ce qui devient moins fréquent de nos jours, malheureusement. Mais ils n'ont eu aucune relation physique. Ils sont unis dans les liens du mariage par l'alliance. Devant témoins, devant tout le monde, ils sortent de là, là, sont mari et femme. Ils n'ont eu aucun rapport sexuel encore. Et ensuite, ils sortent, ils s'en vont dans leur voyage de noces, et là, qu'est-ce qui arrive? Ils deviennent une chair. Ils deviennent une chair. Je prends le temps d'expliquer tout ça parce que c'est important pour comprendre Éphésiens 5. Voyez-vous, c'est comme le baptême. Le baptême, c'est la démonstration physique de ce qui est arrivé sur le plan spirituel. Quand tu te fais baptiser, tu déclares à tous, je suis mort, quand je suis sous l'eau, là, j'ai accepté que je suis mort au principe de ce monde, à la façon dont le monde voit la vie. Je me déclare mort au monde, mort à la façon dont le monde voit la vie. Et mon ami, on a besoin de réfléchir à ça. Mais je déclare ça quand je me fais baptiser. Ça déclare que quand je me suis converti, là, c'est ça qui est arrivé. C'est la déclaration de la réalité spirituelle. Bien, l'acte sexuel après l'alliance, c'est la manifestation physique de l'alliance spirituelle qui s'est accomplie lors des vœux du mariage. On me suit? J'espère que c'est assez clair. Mais généralement, lorsqu'on a parlé d'une seule chair, on a mélangé l'alliance puis le fait de devenir une seule chair. On a tenté de spiritualiser l'expression d'une seule chair. Pour en faire une idée spirituelle, on est spirituellement unis, on doit avoir les mêmes buts, la même pensée, on est une seule chair. Mais c'est pas ça que l'expression désigne dans la Bible. Regardez-la à tous les endroits, ça désigne pas qu'on est, on a une même idée, on a une même... Non, ce qui désigne ça, c'est l'alliance. Le contrat spirituel qu'on a fait ensemble, ça désigne. L'union sexuelle désigne littéralement, on devient un corps. Lorsqu'un homme et une femme ont une relation sexuelle, ils deviennent littéralement, ensemble, un corps. Regardez dans 1 Corinthiens 6, 15 et 16. On va l'avoir à l'écran. Paul prend exactement ce texte de Genèse, il le cite, on va voir comment, puis il dit aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, parce qu'il y avait un temple où il y avait des centaines de prostituées, et les Corinthiens, chrétiens, sortaient, puis dans la mentalité religieuse de l'époque, pour tenir à la divinité, il fallait que tu ailles vers une prostituée. Faut vous imaginez? C'est fort, là. C'était dans la culture. Fait que le jeune chrétien corinthien dit, bon, ben, let's go, on va venir à la divinité. Hein? Et il s'en allait, puis... Il allait s'unir à une prostituée. Paul dit, hey, t'as un peu, là. T'as un peu. Il dit, ne savez-vous pas? Donc, il veut leur faire comprendre quelque chose. Que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Ne sais-tu pas que quand tu t'unis à la prostituée, tu deviens un corps? Car est-il dit? Et là, il est en train de citer le texte qu'on vient de voir dans Genèse. Car est-il dit, les deux deviendront quoi? Donc, pour Paul, une seule chair, c'est quoi? C'est un seul corps, même avec la prostituée. Mais là, lorsque tu t'unis avec une prostituée, tu n'es pas marié. Tu n'as pas fait alliance, mais tu es un corps avec elle. On voit la distinction entre l'alliance puis une seule chair. Ici, Paul l'a fait très clairement. Pour Paul, une seule chair, c'est un seul corps. C'est le sens physique. Le mot « chair » dans ce contexte du mariage parle du corps. Mais Paul va très loin dans cette description de cette image-là. Il pousse l'affaire. Regardez ce qu'il dit. C'est très important que vous écoutiez ça parce que le concept du mariage n'est pas compris de nos jours, mais pas du tout. On ne sait pas ce que c'est. Et on a vraiment besoin de comprendre. Parce que vous allez avoir des jeunes qui vont vous poser des questions sur le mariage. Puis si vous n'avez pas saisi ça, vous ne saurez pas quoi leur répondre. Regardez ce qu'il dit au verset. J'ai passé le verset 15. On va l'avoir à l'écran. Ne savez-vous pas? OK, donc là, il prend les deux concepts. Allez voir. Ne savez-vous pas que votre corps fait partie du corps de Christ? On comprend ça avec ce qu'on vient d'expliquer ce matin? Votre corps fait partie du corps de Christ. Christ, c'est la tête. L'Église, c'est son corps. Vous êtes converti. Votre corps, puisque vous faites partie du corps de Christ, c'est un membre du corps de Christ. OK? Ça, c'est clair? Votre corps fait partie du corps de Christ. Regardez ce qu'il dit. Prendrais-je donc des parties du corps de Christ pour en faire des parties d'un corps de prostituée? Vous ce qu'il est en train de faire? Il dit, quand tu as une relation sexuelle hors mariage, ton corps, qui fait partie du corps de Christ, s'unit et devient un seul corps avec la prostituée. Tu es en train d'entraîner Christ dans ton péché. Ton corps est un membre du corps de Christ et ce corps qui s'unit à la prostituée devient un corps avec elle. Paul dit, est-ce que je vais prendre ce membre qui fait partie du corps de Christ et d'en faire un avec la prostituée? Il dit, jamais! Paul est en train de dire, réalisons-nous à quel point le péché sexuel hors mariage a des conséquences incroyables. Il dit, fuyez l'impudicité. L'impudicité, là, c'est les relations hors mariage. Les synonymes, c'est la débauche, la fornication, des fois, d'un vieux mot, l'immoralité, l'impureté, l'inconduite. Fuyez l'impudicité. Il dit, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Il entraîne avec son corps. Son corps pêche parce qu'il s'unit à la femme. Il devient un corps avec elle, puis il est uni avec Christ comme étant membre du corps de Christ. Paul dit, c'est très grave. Et je pense que c'est important qu'on saisisse cela et qu'on communique cela à nos jeunes, qu'il y a un sens au mariage. Il faut leur expliquer. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Donc, pour Paul, une seule chair égale un seul corps. Une seule chair, c'est un seul corps. La relation sexuelle nous rend un corps avec la personne. Maintenant, Paul, juste après, en Corinthiens 7, on va revenir à Éphésiens 5. Je suis en train de vous expliquer comment comprendre Éphésiens 5. Il faut comprendre ces concepts-là avant. Dans Corinthiens 6, il vient de dire que si tu te nies à la prostituée, tu es un corps avec elle. Parce que ton corps est membre du corps de Christ. Puis, donc, c'est péché gravement. Mais dans Corinthiens 7, 3 et 4, regardez ce qu'il dit. Et c'est tiré du concept qu'on vient de voir. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Il parle des relations sexuelles ici. Que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. OK. Il y a un commentaire, Fawcett and Brown, qui dit, c'est un paradoxe que Paul est en train de dire. Elle n'a pas autorité, ou lui-même n'a pas autorité sur son propre corps, et pourtant, c'est son propre corps. Voyez-vous le paradoxe? C'est son propre corps, mais elle n'a pas autorité sur son propre corps. De même, le mari, c'est son propre corps, mais il n'a pas autorité sur son propre corps. Et voici son explication. L'union en un seul corps du mari et de la femme explique ce paradoxe. C'est son corps, mais ce n'est pas son corps, c'est leur corps. Ils sont une seule chair, un seul corps dans le mariage. OK? Paul vient d'affirmer au chapitre 6 que de devenir une seule chair, c'est de devenir un seul corps. Ici, il applique le concept aux relations sexuelles dans le couple marié. du fait qu'ils sont un seul corps. Il dit que l'homme n'a pas autorité sur son propre corps et que la femme non plus. Ils sont un seul corps. J'espère que c'est assez clair. Hein? Puisque vous formez un seul corps, vous n'êtes pas les seuls à décider ce que vous ferez avec ce corps sur le plan sexuel. C'est important qu'on saisisse ça. Et là, si on comprend tout ce que je viens de dire, j'espère, sinon vous le réécouterez. Des fois, ça peut prendre un temps avant de saisir. Là, on comprend l'argument d'Éphésiens 5. Puisque selon les Écritures, l'homme et la femme sont devenus une seule chair, un seul corps, par la relation sexuelle qui suit le mariage, il s'ensuit que le corps de sa femme est son propre corps dont il doit prendre soin. Vous me suivez? Sa femme est devenue son propre corps dont il doit prendre soin. Donc, je résume les concepts, juste pour être sûr que tout le monde comprend. Christ, c'est la tête de l'épouse. L'Église, c'est le corps de l'époux. L'homme est la tête de l'épouse. L'homme a un corps. À un certain âge, il se demande. Hein? Petite joke en passant. L'homme a un corps. Ils sont devenus un seul corps en s'unissant sexuellement. Donc, en prenant soin du corps de sa femme, il prend soin de son propre corps. Il score. Regardez, je vais faire un petit jeu de mots. Attends un peu, il faut dire. Ce qui est mon jeu de mots, c'est pas tout de suite. Attends un peu, non, on remet. Je ferai un petit jeu de mots un peu plus loin. En d'autres mots, l'union d'une chair entre un homme et une femme signifie qu'ils sont maintenant un corps, de sorte que le soin d'un mari pour sa femme, lorsqu'il prend soin d'elle, shit Piper, là, il le fait pour lui-même. Ils sont un, ce qu'il fait pour elle, il le fait pour lui-même. OK? Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Ça, ça nous fait comprendre. Pourquoi il dit ça? Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. C'est intéressant. Comme Christ lui-même prend soin de son corps, l'Église, il prend soin de lui-même. Je répète ça. Quand Christ prend soin de l'Église, puis il l'aime tendrement, il prend soin de lui-même. Il prend soin de son corps. De même, quand le mari prend soin de sa femme, il prend soin de son propre corps, parce qu'ils sont devenus... Donc, on a le modèle avec Christ, puis on a aussi le même principe avec le mari et sa femme. Moi, je trouve ça fantastique. Ça, wow! Paul argumente avec le mari. Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Paul dit, aucun homme sensé ne hait son propre corps. Voyons, il en prend soin, il nourrit, puis... Comment l'homme prend-il soin de son corps, mesdames? Vous connaissez votre mari? Comment il prend soin? Là, je ne parle pas de vous, là. Je parle de son corps pour le moment. Hein? Souvenez-vous, les messieurs, le petit proverbe? Les hommes aiment taquiner leur mari en disant, « Ah, c'est une grippe d'homme. » Pourquoi ils disent ça? Quand on est malade, tu sais, les hommes, on chiale, on se plaint, bien, « Ah oui, c'est une grippe d'homme, mon chéri. Je te comprends. » C'est un peu d'ironie, là, pas mal. Mais ça démontre que l'homme prend soin. Ça démontre que l'homme prend soin de son corps. Il fait attention. Hein? Je n'ai pas compris, mais c'est peut-être préférable, je ne sais pas. Le fait que l'homme prend soin de ses moindres petits bobos, prend soin de son corps. Il donne le repos nécessaire à son corps, des fois un peu trop.
Attention, je vais baisser ton micro. Il donne de bons repas pour le nourrir, son corps. Il aime ça quand sa femme lui prépare des bons repas, puis hein, il prend soin de son corps. Peut-être que tu manges beaucoup de chips, puis tu manges, bois beaucoup de liqueur, mais ton but, c'est de te faire du bien. Tu fais une grosse erreur, là. Mais ton but, c'est de te faire du bien. Il fait acheter de beaux vêtements par sa femme. Souvent, les hommes n'aiment pas magasiner, chérie. Mais il prend soin de lui. C'est naturel. C'est naturel. Paul t'invite donc, en comparaison, à prendre soin de ton corps, la femme. Je vais faire là le petit jeu de mots. Regardez. Quand je dis corps, c'est ton corps, le tien, là. Quand je dis score, regardez comment je l'écris. Quand je dis score, c'est le vôtre, le un seul corps. Alors, quand tu prends soin du score, tu scores. Je t'appelle à imiter le Seigneur Jésus lui-même qui prend soin de son Église et de prendre soin de ta femme. Puis je me lance un défi à moi aussi, hein, définitivement. L'union de Christ avec son ennemi, l'Église, est tellement proche que quand il prend soin de son Église, il s'y prend soin lui-même. L'union de l'homme et la femme est tellement proche que quand il prend soin de sa femme, il prend soin de lui-même. Je ne sais pas si on avait saisi ça. Alors, prends soin du corps. Assure-toi qu'elle prend le repos. Il y a bien des familles avec des jeunes couples, des jeunes enfants. Pierre nous dit que l'épouse est un vase plus fragile. Prends soin de ton corps. Prends soin de ton épouse. Sache. Donne-lui le repos qu'elle a besoin. Des fois, tu as besoin de prendre du temps à part avec elle. Pourvois-lui des vêtements adéquats. Prends soin de ton corps. Pour qu'elle se sente bien dans sa peau. Il y en a qui ont écouté avec Jean Héraldi. Héraldi, oui. Merci. Hein, il prenait une femme d'un certain âge. Il y a plusieurs qui s'opposaient à cette émission-là, mais j'en écoutais à quelques reprises. Puis ça me frappait à quel point, quand la femme, il prenait le temps de la ranger. Comment son bien-être intérieur était rehaussé. C'était évident, là. Alors, prends le temps de permettre que ta femme puisse prendre soin d'elle-même. Des vacances adéquates. Et je me parle. On a eu une bonne dispute là-dessus. Vous savez, les anciens, les bergers, les vieux pasteurs, on a nos combats aussi. Hein? Et on a eu des grosses discussions là-dessus. Et donc, on a besoin, en tant que Marie, de s'assurer qu'on a les bonnes vacances en tant que famille. Puis prends en considération son âge. Avec l'âge, on a tendance encore plus à penser à son corps. Vous remarquez ça, hein? Ceux qui ont 60 ans et plus, là, c'est quoi les discussions? Hein? Les nuits courtes, les maladies, les rides, et j'en passe. Puis, messieurs, ça, c'est gagnant. Si tu veux prendre soin de ton corps, là, ça a l'air que nos femmes préfèrent être massées que même la relation sexuelle. Ça, c'est gagnant, je t'assure. Quand tu prends soin du score, tu scores. En prenant et en aimant et prenant soin de ta femme, mais ça ne sera pas facile. Je ne pense pas que c'est facile. On a tous nos temps difficiles. Mais en prenant soin de ta femme, tu t'aimes toi-même. Tu fais corps avec elle. En négligeant ta femme, tu te détruis toi-même. Se peut-il que tu n'as pas pris un soin adéquat de ton corps? Peut-être que tu l'as traité durement avec colère. Tu l'as laissé soulever des poids inadéquats. La responsabilité de la famille. Je répète ça. Tu l'as laissé soulever des poids inadéquats. La responsabilité de la famille. Nos femmes se plaignent de ça. C'est toi qui as la charge. Tu es la tête. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu es bien content que Dieu t'a donné le leadership, mais tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La charge, là, quand tu vas arriver devant le Seigneur, c'est toi que Dieu va demander comment ça a été bien. Oui, il va demander à la femme si elle a suivi ce que Dieu lui demandait. Mais la charge de la famille, là, la responsabilité, là, c'est toi qui l'as. C'est toi qui vas te présenter devant le trône de Christ et il va te demander qu'est-ce que tu as fait? Paul dit, si tu négliges ton score, tu te tires dans le pied. On dit que celui qui ne veut pas pardonner, c'est la seule personne qui pense pouvoir prendre un poison et que c'est l'autre qui va payer. Je répète ça. On dit que celui qui ne veut pas pardonner, c'est la seule personne qui pense pouvoir prendre du poison, le boire, puis que c'est celui qui haït qui va payer. Si tu prends le poison, là, c'est toi qui vas payer l'amertume, la haine, ça va te détruire intérieurement. De même, de penser que négliger sa femme et croire que ça ne t'affectera pas beaucoup, c'est de la stupidité. Prions au Seigneur. Seigneur Jésus, je veux te remercier que tu le vis toi-même. Lorsqu'on lit tes épîtres, Seigneur, aux églises de l'Apocalypse, ton église est loin d'être parfaite. Mais Seigneur, tu prends soin de ton corps, de ton église. Oui, tu la reprends parce que tu exerces ton leadership. Mais tu l'aimes, Seigneur. Seigneur, je te prie pour moi-même de m'aider, Seigneur. De m'aider à vivre ce que j'enseigne. Et je te prie, Seigneur, pour les frères. Oh, Seigneur, fais saisir ce concept glorieux que tu as fait de nous un seul corps, hommes et femmes. Oui, Seigneur, fais-nous comprendre que quand on a cette relation d'intimité sexuelle, s'il te plaît, Seigneur, à nous voir devenir un seul corps. Et qu'on puisse méditer même sur ce concept, Seigneur. On forme un seul corps. Seigneur, aide-nous les maris à te ressembler. Seigneur, aide-nous à comprendre, à aller à toi comme mari quand on est découragé, quand on ne sait pas comment faire, quand on ne se sent pas capable. Et Seigneur, on veut se rappeler que tu es mort aussi pour nos manquements, nos péchés. Seigneur, on veut apporter nos manquements au pied de la croix. au pied du calvaire. Seigneur, tu es mort pour chacun de ses péchés. Et on veut se relever, Seigneur. On veut se relever et faire mieux. Changer. Prendre soin. Seigneur, aide-nous. On a besoin de ton aide. Amen.